voilà, nous sommes installés dans la Cour des Comptes sur Radio Centrafrique. Et bienvenue. Nous sommes toujours avec les femmes. Résumé des chapitres précédents pour commencer, histoire de ne pas perdre le fil. Clarissa Pinkola d'Estes nous a distribué des injonctions à retrouver en nous la femme sauvage, ses qualités innées, au travers d'une interprétation des contes. Peut-être qu'en allant méditer dans la nature et en interrogeant éventuellement les arbres, ce serait efficace aussi. Je dis ça, mais je dis rien. Et en plus, vous risquez de croiser l'homme sauvage, car lui aussi, il a bien besoin de se retrouver. Françoise Héritier, de son côté, nous a donné la clé de la différence entre les sexes qui serait responsable de notre asservissement. Je veux parler de la reproduction. Réservée aux femmes, d'où tout un ensemble de règles sociales, expression de la volonté de contrôle de la reproduction de la part de ceux qui n'ont pas ce pouvoir. Ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes. Quelle que soit la façon dont les cultures dans les différentes sociétés abordent et résolvent le problème de la différence entre les sexes, qu'il s'agisse de traiter de la parenté, de la répartition des tâches, il est implicitement affirmé une fragilité intellectuelle, voire morale, de la femme, ce qui doit nécessairement, comme son infériorité physique, entraîner des conséquences sociales.
Une fille use de son charme, une autre préfère le cacher. Un homme se noie dans ses larmes, un autre n'a jamais pleuré. Il y a celle qui vaut des armes et celle qui ne le fera jamais. Des sales cons qui vendent des armes, des hommes qui cherchent la paix. Les beaux bouquets que l'on cueille, que l'on offre pour flirter. Ce que l'on pose sur les cercueils dont on aimerait se passer. Dès l'instant où le vent s'énerve, certaines feuilles viennent à voler. Les feuilles séchées se conservent et la poussière vient s'y poser. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le monde est fait. Je revendique la tolérance. Un homme se parfume, son frère n'ose pas y songer. Certains s'habillent en costume, d'autres préfèrent se dénuder. Une jeune femme se présente, elle n'arrête pas de parler. Une autre à la parole absente passe des heures à l'écouter. Il y a celle qui vous aime et l'autre qui n'a jamais aimé. Les adeptes du baptême et celles qui n'ont jamais prié. Il y a les arbres isolés et ceux qui peuplent les forêts. Ceux qu'on a improvisés dans les parcs goudronnés. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le monde est fait de différence. Je revendique la tolérance. Il y a celui qui amorce et l'autre qui n'ira pas pêcher. Il y a les hommes qui divorcent et ceux qui ne veulent pas se marier. Il y a le chêne centenaire que l'on tue par sécurité. Notre monde a un cancer et l'homme l'a généralisé. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le monde est fait de différences. Je revendique la tolérance. La vie est faite de différences, avec plus ou moins de chance. Le
a plein d'astuces pour ne pas risquer de dévaloriser l'homme. Par exemple, à propos de la stérilité, qui est une malédiction pour beaucoup. Chez les Samo du Burkina Faso, la jeune fille, dont le mari a été choisi dès l'enfance, doit obligatoirement, avant son mariage, avoir un amant. Et elle ne se mariera avec le mari choisi qu'après avoir eu un enfant de l'amant. Et cet enfant sera reconnu comme fils ou fille du mari. Et hop, on escamote officiellement la possible stérilité du mari, puisqu'il est considéré comme père. Par contre, la femme n'a aucun moyen d'échapper à l'opprobre de la stérilité. Elle ne sera jamais considérée comme une vraie femme et sera traitée toute sa vie comme une enfant. Elle sera en ce monde comme si elle n'avait pas vécu. Cependant, je vais moduler ce jugement excessif. Serais-je androphobe ? Il y a possibilité d'échapper à la malédiction de la stérilité pour les femmes dans certaines cultures. C'est le cas chez les Nuers d'Afrique de l'Est. Les femmes stériles peuvent épouser une autre femme et choisir un homme pour vivre avec elle. Cet homme mettra enceinte l'épousée et l'enfant portera le nom de la femme stérile et il sera considéré comme le sien, malgré l'absence de lien biologique. Comme quoi, les sociétés humaines, dans leur diversité, ont trouvé des solutions diversifiées pour répondre au problème de l'équilibre des individus dans le groupe. Parenthèse. Des enquêtes récentes ont révélé que dans 30 à 40% des cas de stérilité, c'est l'homme qui en est responsable. Nous sommes une espèce grégaire, et comme les insectes sociaux, avons des comportements déterminés pour, en principe, permettre une vie en groupe. On parle pour les animaux d'instinct, de comportement inné, issu du biologique. Et nous, eh bien, nous pensons malédiction. Même si le biologique reste le substrat sur lequel nous nous appuyons, il est manipulé par la pensée, la conceptualisation, pour organiser une structure permettant de vivre en troupe. Or, la pensée procède par classement, opposition, qualification hiérarchique, à partir de ce qui est observé. Nous avons vu que l'observable qui a interpellé les hommes, c'est la capacité de la femme à donner la vie, le scandale. Il faut régler ceci par des lois reposant sur la parenté. Et c'est ce que font toutes les sociétés. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, le fait que les femmes ne peuvent contrôler la perte de sang est interprété comme un signe de faiblesse, congénitale, dirons-nous. Et voilà le drame noué.
Je m'appelle Sabrina, cadre chez Paribas. Veste courte, duplissée, chemisier parfumé. Intérêt et placement, profit, investissement, bénéfice, actionnaire, je suis une pute en affaires. Ce que je ne dis pas, c'est que dans ce monde-là, pour gagner de l'ampleur, faut ranger sa pudeur. Je suis une femme, je suis une femme, qui comme un homme peut être infâme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai. Marie Chantal, Miss Multinationale. Ensemble noir haute couture, Louis Vuitton en chaussures. Chauffeur et limousine, diamant sur banque platine, belle assistante IP pour finir la journée. Ce que je ne dis pas, c'est que derrière tout ça, y a des enfants qui crèvent pour financer mes rêves. Je suis une femme, je suis une femme, qui comme un homme peut être infâme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai comme des chiens. Moi je m'appelle Michel, garde des seaux des poubelles. Je travaille pour la justice, je nettoie tout, faut que ça glisse. Casque, bottes et matraque, mes hommes quand ils attaquent me procurent des frissons et ne posent pas de questions.
que je ne dis pas et que tout le monde voit, c'est que je m'enrichis. Pour les pauvres, tant pis. Je suis une femme, je suis une femme qui, comme un homme, peut être infâme. Si vous me laissez faire un mandat, j'imiterai le petit Nicolas. Je suis une femme, je suis une femme qui, comme un homme, peut être infâme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai comme des chiens. Je suis une femme, je suis une femme qui, comme un homme, peut être infâme. Si vous m'en donnez les moyens, je vous traiterai.
En attendant la suite des considérations sur ces différences entre hommes et femmes, je vous livre un premier conte, Le secret des flûtes, conte papou. Là où le crocodile fait trembler la terre, court un fleuve, le Sepik. Sur une de ses rives, un village. De ce village, ce jour-là, une femme était partie seule dans la forêt ramasser du bois. Soudain, elle distingue, parmi le craquement des arbres et le chant des oiseaux, un sifflement. Elle n'avait jamais entendu le vent chanter de cette manière. Étonnée, elle l'écoute plus attentivement. D'où peut bien provenir une telle musique? Est-ce un animal? Un esprit? Elle a peur que ce dernier ne l'enlève et retourne chez elle sans en parler à personne. Quelque temps plus tard, alors qu'elle ramasse des baies, elle entend de nouveau le même sifflement. Cette fois-ci, à force de scruter partout, elle aperçoit à la cime d'un arbre deux morceaux de bois longs et fins. S'agrippant aux branches, elle atteint et attrape le plus court. Parfaitement lisse, de la taille de son bras, il s'agissait d'un bambou coupé entre deux nœuds. Elle le cache dans son fagot de bois. Une fois au village, elle appelle une amie. Cachée dans la maison réservée aux femmes, elle lui montre sa découverte et porte à sa bouche l'instrument pour imiter le vent qui passait dedans. Une douce mélodie en sort. Les deux femmes sont sous le charme. « Tu dois me montrer où tu l'as trouvé et nous devons prendre le deuxième !» murmure l'ami. Elles partent immédiatement le chercher. Celui-ci était beaucoup plus long. Percées, elles se voyaient de part et d'autre. Leur souffle effleure l'un des côtés du bambou et un son prodigieux en sort. Hésitante mais impatiente, l'ami le porte à sa bouche. Quelle magnifique mélodie! Plus envoûtante encore que celle du premier. Sans attendre, les deux femmes rentrent au village. Elles s'enferment dans la maison des femmes et y restent toute la journée. Le lendemain, à nouveau, elles ne quittent pas leur maison. Elles appellent les autres femmes et les unes après les autres, elles jouent avec les flûtes. Comme possédées, elles rient aux éclats, ne sortant plus et ignorant les hommes. Ces derniers ne comprennent pas ce qui se passe. Était-ce une crise passagère? La sorcellerie de quelques chamans de clans ennemis? Très vite, le bois pour le feu, la moelle de sagou pour les repas viennent à manquer. Les hommes sont obligés d'aller eux-mêmes ramasser le bois, filtrer et récolter la farine du sagou, cercler les jardins. Ils sont épuisés. Ils ne parviennent pas à raisonner leurs femmes. Un soir, ils se réunissent. Il nous faut trouver une solution. Nos femmes nous échappent. Elles n'ont plus besoin de nous. Elles restent dans leur maison. L'équilibre et l'organisation du quotidien sont rompus. Alors, commençons par construire notre maison, la maison des hommes, interdite aux femmes. Lance un troisième qui était bon chasseur. Elle sera notre refuge. Nous y laisserons nos objets magiques, y échangerons nos secrets, comme elles le font dans la leur. De mon côté, je me charge de les espionner. Le lendemain, les hommes, munis d'herminettes, commencent la construction. D'un pas discret, le chasseur avance à l'arrière de la maison des femmes et glisse son regard entre les fentes des planches de bois. Ses yeux ne savaient plus où regarder. Il n'avait jamais vu pareille image. Assises ou allongées, les femmes de tous âges riaient, s'exclamaient, soupiraient en se passant des instruments de bois. Elles avaient dans les mains ce que lui avait entre les jambes. Sauf que cet instrument-là chantait. C'en est assez! La colère lui monte aux oreilles. Sans permission ni sommation, il entre, s'empare des instruments et court jusqu'à la maison que les hommes terminaient de construire. Il raconte ce qu'il a vu. Tous découvrent alors ce qui avait dévoyé les femmes de leur occupation, le jeu des flûtes, leur douce mélodie. À leur tour, ils essayent. Les chamans reconnaissent la voix des ancêtres qui célèbrent leurs exploits. Il n'est pas possible de laisser un tel pouvoir entre les mains des femmes, s'exclame l'un d'eux. Elles ont déjà le secret de la naissance des hommes. Elles ne peuvent pas en plus converser avec les ancêtres, les laisser envoûter leurs esprits et pénétrer leurs corps. À quoi servirons-nous alors? Nous devons leur faire oublier qu'elles ont la puissance de connaître les deux bouts de la vie. Nous devons rester les seuls intercesseurs avec le monde des esprits. Gardons ces instruments secrets. Ainsi, notre richesse deviendra celle qu'elles auront perdue. Ces flûtes communiquent avec les esprits des eaux, avec ceux de la forêt. Sculptons des masques représentant ces esprits et fixons-les sur ces flûtes. Faisons croire aux femmes qu'ils reviennent pour les emporter. Effrayées, elles ne s'en approcheront plus et oublieront tous ces jeux. Ainsi, les hommes dissimulent dans leur maison les flûtes afin de s'approprier les savoirs et les secrets des ancêtres. Ils modelèrent des visages, puis fabriquèrent de nouvelles flûtes ornées de masques, afin que d'autres voix vinssent à eux. Depuis ce jour, lors des cérémonies, où les mélodies retentissent, les femmes font semblant de ne pas savoir d'où le son provient. Car il fallait bien partager les pouvoirs. Elles font semblant d'être effrayées par la voix des ancêtres, des esprits, baissant les yeux pour ne pas regarder celui qui joue. Et elle ne se laisse posséder que par les hommes et leurs grands secrets.
Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie, sur les cœurs. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue, sur mes sentiments illimités. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
s'assèche et que je craque. Je veux tout, toi et les autres aussi.
Comment la manipulation du réel a été réalisée pour incruster cette idée de l'infériorité de la femme au point que c'est inscrit dans notre inconscient, transmis, inculqué par l'éducation, l'environnement culturel et aujourd'hui médiatisé, y compris pour les faits scientifiques. Car il ne suffit pas qu'une explication soit vraie pour être crue, si elle n'est pas en harmonie avec les autres croyances de la société. Le discours savant se réfère lui aussi à la pratique sociale, seul système d'interprétation possible. Prenons donc l'exemple de la parenté, puisque c'est une base de l'organisation des sociétés. Il y a des sociétés matriarcales, me direz-vous, et donc on les pense couramment comme une prééminence des femmes. Eh bien non. Si nous examinons le cas des Iroquois, Amérindiens d'Amérique du Nord, les plus proches anthropologiquement parlant de la définition du matriarcat et le plus favorable aux femmes, que voyons-nous? Dans cette société, la règle de filiation passe par les femmes. Les femmes appartenant à la même lignée vivent dans la même grande maison avec leurs époux et leurs enfants sous la tutelle d'une femme, une femme d'âge mûr. Elle commande et dirige la vie des grandes maisons, le travail agricole apanage des femmes, réalisé en commun sur les terres collectives, propriété des femmes de la lignée. Ces matrones font la redistribution des nourritures par foyer et auprès des membres du Conseil des Anciens. Mais cependant, elles n'ont pas le pouvoir politique. Elles ne font pas partie du Grand Conseil des six nations iroquoises et elles ne sont que représentées au Conseil des Anciens de chaque nation. C'est-à-dire qu'elles peuvent exprimer leur opinion sur les projets guerriers, par exemple, voire y mettre leur veto, mais par la voix d'un représentant masculin. Elles n'exercent pas directement un pouvoir politique. Ceci dit, un projet de guerre qui n'aurait pas leur assentiment pouvait être annulé en interdisant simplement aux femmes de fournir aux guerriers la provision de nourriture qu'il leur fallait emporter. Un deuxième conte, issu celui-ci de la mythologie grecque. Eros et Psyché. Il y a bien, bien longtemps, vivaient une reine et un roi qui avaient trois filles. L'aînée était belle, la seconde encore plus. Quant à la troisième, elle était plus ravissante que les astres du ciel. Elle s'appelait Psyché. Les gens viennent de pays très lointains, traversent des mers, escaladent des montagnes, dans le seul but de l'admirer. Lorsqu'elle sort du palais, ils la regardent avec émerveillement et s'écrient. C'est la déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite, qui a quitté l'Olympe pour venir nous voir. Aucun enfant de parents humains ne pourrait être aussi belle, disent les uns. Oh non, prétendent les autres, ce n'est pas la divine Aphrodite, c'est une nouvelle déesse qui la surpasse en beauté, en puissance. Et ils se prosternent, l'adorent, lui offrent des sacrifices. Lorsque Psyché marche dans la rue, celle-ci s'anime comme pour une fête et son chemin est jonché de fleurs. Pendant ce temps, les temples consacrés à Aphrodite sont désertés par les fidèles. Les araignées y tissent leurs toiles. La cendre sur les autels sont depuis longtemps refroidies et personne n'immole plus de victimes à la déesse déchue. Tous sont occupés à adorer Psyché et oublient Aphrodite. Voyant sa renommée en péril, Celle-ci ne peut supporter une telle humiliation. Elle convoque son fils Eros pour l'aider à punir la folle princesse. Le fils ailé de la déesse s'envole aussitôt pour la rejoindre. Sa main droite tient un arc et il porte sur son dos un carquois rempli de flèches. Celles-ci, bien qu'invisibles à l'œil humain, atteignent à coup sûr la victime choisie et la blessent d'amour. Or, l'amour, s'il procure à certains un bonheur ineffable, peut être aussi source de grands malheurs. Mon enfant, dit Aphrodite, il y a sur la terre une princesse du nom de Psyché. Elle est assez impudente pour se permettre de se faire adorer telle une déesse. Tu vas m'aider à la châtier en transperçant son cœur d'une flèche. Mais celle-ci ne doit pas lui apporter la joie, bien au contraire. Je veux qu'elle épouse l'homme le plus mauvais qu'elle pourra rencontrer. Personne ne s'occupera plus d'elle lorsqu'elle sera malheureuse et humiliée. Le feu sacré s'élèvera à nouveau sur mes autels, et le parfum des sacrifices s'élèvera jusqu'aux cieux. Eros acquiesce et s'envole pour accomplir la volonté maternelle. Il se cache au sommet d'un arbre, devant le palais royal, et prend une flèche dans son carquois. Tout autour de la demeure seigneuriale sont rassemblés des pèlerins qui attendent la sortie de la ravissante princesse. Elle apparaît bientôt, rayonnante de beauté, comme un arc-en-ciel. La main d'Eros, qui tient l'arc, retombe, et il regarde Psyché avec admiration. Puis il remet la flèche dans le carquois et s'envole. C'était la première fois qu'il désobéissait à sa mère Aphrodite. Or, bien qu'elle soit révérée par tous, Psyché n'était pas heureuse. Ses sœurs moins jolies qu'elle étaient déjà mariées et étaient parties avec leur époux. Mais personne n'osait faire la cour à une si jolie princesse. Aussi, le roi pensait-il que c'était là une punition des dieux, et c'est pourquoi il demande à l'oracle ce qu'il faut faire. Voici ce qui lui est répondu. Habille Psyché de vêtements funéraires. Ce sera sa parure de mariage. Emmène-la au sommet de la falaise qui est derrière le palais. C'est là que son fiancé viendra la chercher. Ce n'est pas un être humain. Et il sait des choses terribles. C'est en pleurant que le roi accueille cette prédiction. Sa fille préférée n'était donc pas née pour l'amour humain, et un monstre allait s'en emparer sur la falaise. Pourtant, il n'ose pas désobéir à la volonté des dieux. Il prépare donc une fête funèbre, convoque des musiciens et leur ordonne de jouer leurs airs les plus tristes. Puis il revêt sa fille comme s'il allait l'enterrer. Lorsque la lumière des torches sont éteintes et que le silence est revenu, Psyché sort du palais pour la dernière fois. Le roi, la reine et tout le peuple en larmes l'accompagnent jusqu'à l'endroit fatal. Elle gravit la falaise seule et s'assoit en pleurant d'angoisse, tandis qu'un gros nuage noir l'enveloppe. C'est alors que Zéphyr, le vent d'ouest, repousse soudain la nuée et, prenant tendrement la princesse dans ses bras, la fait descendre dans une vallée embaumée, parsemée de fleurs et d'herbes veloutées. Il essuie ses larmes et Psyché regarde autour d'elle. Elle voit un bois dont les arbres murmurent doucement, et une source limpide qui scintille dans leur ombre. Non loin de là s'élève un somptueux palais aux murs d'argent et aux toits faits d'or et d'ivoire. La jeune fille s'en approche timidement. Les grandes portes sont ouvertes et laissent apercevoir les rayons multicolores des parquets, incrustés de pierres précieuses. « Qui donc peut habiter un palais aussi splendide ? Se demande Psyché. Elle gravit la première marche de l'escalier, puis la seconde, puis la troisième. Rassurée, elle court jusqu'en haut du perron, risque un coup d'œil à l'intérieur et entre dans la demeure. Elle traverse plusieurs pièces vides, sans apercevoir âme qui vive. Et tandis qu'elle admire les vases précieux et les statues de marbre, elle entend la voix d'un être invisible. « Sois la bienvenue dans mon domaine, Psyché. Tout ce que tu vois t'appartient à partir d'aujourd'hui. Si tu as le moindre désir, exprime-le et mes serviteurs se feront une joie de l'accomplir. » La princesse souhaite prendre un bain et aussitôt elle est transportée dans un bassin d'eau parfumée. Après quoi, elle trouve une table couverte des mets et des boissons les plus raffinés. Lorsqu'elle a fini de dîner, un chanteur et des musiciens invisibles la surprennent et la charment. Elle écoute les douces mélodies jusqu'à ce que ses yeux se ferment de fatigue. Alors, elle trouve dans la pièce suivante un lit accueillant. Elle se couche épuisée, mais ne peut s'endormir tant elle est intriguée par le merveilleux palais et par l'époux promis par l'oracle. Puis elle pense à ses parents, qui devaient être fort inquiets. L'obscurité tombe, et c'est la nuit. Dans le noir, elle entend le bruit d'une respiration. Quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir s'approche de sa couche. Ce n'était autre que Eros. Et lorsqu'il est tout près d'elle, il lui adresse la parole. « Je suis ton mari, Psyché. N'aie pas peur de moi. Tu ne manqueras de rien. Mes serviteurs invisibles s'occuperont de tout. Mais tu ne devras jamais apercevoir mon visage. C'est pour cela que je ne te rejoindrai seulement que le soir. Et ce n'est que dans l'ombre que tu pourras me parler. Toutes les nuits, il lui rend visite, puis la quitte avant l'aurore. La jeune femme apprécie de plus en plus les étreintes et les mots doux qu'ils échangent alors. Rien ne manque au bonheur de Psyché, si ce n'est de connaître le visage et le nom de son amant nocturne. Le temps passe, et Psyché un jour demande à son époux de l'autoriser à revoir ses sœurs. Eros sait la méchanceté des deux sœurs, mais n'ose s'opposer au désir de Psyché. Ces deux sœurs sont amenées au palais par Zéphyr. Face à tant de richesses et de bonheur, elles sont folles de jalousie. Elles cherchent à persuader Psyché que son époux n'est rien d'autre qu'un horrible monstre qui finira par la dévorer. Terrifiée à cette idée, Psyché profite du sommeil de son amant pour allumer une lampe à huile afin de percer le mystère. Elle s'approche donc de son époux. La lampe dans une main et un poignard dans l'autre, car ses sœurs lui ont conseillé de couper la tête de ce supposé monstre dangereux. Elle découvre alors le jeune homme le plus radieux qu'elle n'ait jamais vu. Mais une goutte d'huile brûlante tombe sur l'épaule du dieu endormi, qui se réveille aussitôt et s'enfuit, furieux d'avoir été trahi. Folle de chagrin et de remords, Psyché se jette dans une rivière. Mais la rivière, compatissante, la dépose sur la berge où est assis le dieu Pan. Ce dernier conseille à Psyché de tout faire pour reconquérir l'amour d'Eros. Alors la princesse part à la recherche de son amant. Elle erre de temple en temple, sans succès. Enfin, elle parvient au palais d'Aphrodite, qui la soumet à toutes sortes d'épreuves, comme une esclave. D'abord, elle doit trier en une soirée un énorme tas de grains de variétés différentes. Par bonheur, des fourmis, prises de pitié, l'aident à accomplir sa tâche. Et le tas est trié à temps. Ensuite, elle est contrainte de rapporter à Aphrodite de la laine de mouton à la toison d'or qui pèse dans un pré au-delà d'une dangereuse et profonde rivière. un roseau, ému par l'infortune de la jeune femme, lui indique la marche à suivre. Puis, elle doit rapporter de l'eau du Styx, puisée à même la source. Cette dernière se situe au sommet d'une haute montagne gardée par des dragons. Cette fois, c'est l'aigle de Zeus qui vient au secours de Psyché, tandis qu'elle gravit la montagne. L'aigle va remplir une fiole avec de l'eau du Styx et la remet à Psyché. Enfin, la jeune femme doit mettre dans une boîte une parcelle de la beauté de Perséphone, la reine des enfers. Épuisée, Psyché est à nouveau tentée de mettre fin à ses jours. Elle est sur le point de se jeter du haut d'une tour quand soudain, la tour commence à lui parler, la convainc de rester en vie et lui indique même comment réussir cette épreuve. Ainsi, elle parvient à récupérer une parcelle de la beauté de Perséphone. Mais sa curiosité la perd. Pensant que la beauté de la déesse l'aidera à reconquérir Eros, Psyché ouvre la boîte et aussitôt plonge dans un profond sommeil pareil à la mort. Entre-temps, Eros s'est échappé du palais d'Aphrodite qu'il y avait enfermé. Toujours épris de Psyché, il la ranime doucement avec la pointe d'une de ses flèches, puis il l'emmène devant Zeus en personne, qui convoque les dieux de l'Olympe et annonce publiquement le mariage d'Eros et de Psyché. Celle-ci est invitée à consommer l'ambroisie, ce qui lui confère l'immortalité. Le dieu et la nouvelle déesse sont alors unis en présence de tout le panthéon. Et un merveilleux banquet s'ensuit. Quelque temps plus tard, Psyché donne à Eros une fille, nommée Volupté. L'amour, Eros, et l'âme, Psyché, sont ainsi réunis pour l'éternité.
Derrière chaque couleur, derrière chaque apparence, derrière toutes nos différences, se cache une vérité. Nous sommes tous et toutes les perles d'un même collier, toutes unies par le même fil, le fil de la vie. Nous avons tous et toutes la même responsabilité de choisir d'agir pour l'avenir et pour la paix. Nous avons tous et toutes le même rêve secret, le même rêve sacré de nous réaliser en toute dignité. Homme, femme, besoin d'égalité, mais c'est d'abord en nous qu'il faut aller la chercher. Oser mourir à soi pour se remettre en question et se réconcilier avec son autre moitié. Homme, femme, besoin de parité, mais c'est d'abord en nous qu'il faut aller la chercher. Oser mourir à soi pour se remettre en question et se réconcilier en toute humanité, en toute humanité, en toute humanité. L'histoire est écrite par le principe masculin, extérieur à nous-mêmes, pour pouvoir aller très loin, pour pouvoir conquérir. Imaginons l'avenir, un peu plus féminin, intérieur en nous-mêmes, plus besoin d'aller si loin, pour se reconquérir. Oh, notre histoire est écrite par un dieu masculin, extérieur à nous-mêmes, tout là-haut, là-haut, trop loin. Un dieu conquérant, d'ici ou d'ailleurs. Attention, dernier jugement, objection, votre honneur. Je cherche refuge en un dieu féminin, intérieur accueillant, mais surtout sans jugement. Une source d'amour, un foyer chaleureux,
l'action retenue. Oh, choisissez votre Dieu. Hey, oh, choisissez votre Dieu.
D'abord en nous qu'il faut aller la chercher. Oser mourir à soi pour se remettre en question et se réconcilier avec son autre moitié. Homme, femme, besoin de parité. Mais c'est d'abord en nous qu'il faut aller la chercher. Oser mourir à soi pour se remettre en question et se réconcilier en toute humanité. En toute humanité, en toute humanité.
Il y a d'autres sociétés matriarcales où le pouvoir est encore plus faible que celui des Iroquoises. Et c'est le cas le plus fréquent. Certes, la filiation passe par la mère. Les enfants appartiennent au groupe de filiation de la mère. Mais le pouvoir appartient aux frères de la mère, c'est-à-dire à l'oncle maternel de l'enfant, qui a tout pouvoir sur ses sœurs et sur ses neveux. C'est lui qui tient le rôle de père. C'est l'oncle qui décide de leur mariage, de leur travail. C'est lui qui a autorité sur les terres et décide des affaires publiques. On peut donc dire que la filiation est une construction culturelle, comme nous l'avons vu pour la répartition des attributions entre les sexes. Quant aux sociétés patriarcales, eh bien nous en sommes un exemple, hérité des Grecs antiques. Aristote considérait que le rapport perfection-imperfection trouve son origine dans une différence fondamentale présentée comme naturelle, biologique. C'est parce que l'homme est au départ chaud et sec qu'il réussit parfaitement ce que la femme, parce qu'elle est naturellement froide et humide, ne peut que réussir imparfaitement. Voilà que pour ce brave homme, le sang menstruel de la femme est la forme inachevée et imparfaite du sperme. Elle n'est pas compétente par nature. Toutes les inégalités culturelles, dès lors, sont possibles. Et les religions révélées, judaïsme, christianisme et islam, révélées aux hommes naturellement, Moïse, Mahomet et compagnie, se sont engouffrés joyeusement dans cette logique qui les arrangeait bien.
Et voici un dernier conte, Tin Inan, conte du Maghreb. Il y a très longtemps, dans la région du Tafilalet au Maroc, vivait Tin Inan. Elle était célèbre dans toute la région. Elle était belle, intelligente, ses connaissances et sa sagesse étaient sans limite. Mais à cette époque, une femme ne peut rivaliser avec les hommes. On le lui fait comprendre discrètement d'abord, puis plus fermement, et enfin par des menaces et des injures. Tin Inan décide alors de partir, et ne de s'arrêter que là où la femme peut être l'égale de l'homme. Avec sa fidèle servante Takamat, elle prépare son départ. Elle rassemble miel et dattes en abondance, de quoi faire la cuisine et dormir, et 3 chamelles pour les porter et porter le chargement. Elles partent sans un regard pour leur village. Un jour, elles arrivent dans la région de Beni Abbès. Les hommes regardent avec étonnement ces femmes qui voyagent seules et sans voile. Ils refusent de les accueillir. Elles continuent leur chemin vers l'Adrar. Le voyage est long. Le soleil tape fort. Quand elles arrivent à Adrar, elles sont accueillies par des moqueries. Les hommes les désignent du doigt en plaisantant sur leur passage. Même chose à Aïn Sala. Elles continuent donc leur route vers le sud. Mais les provisions s'épuisent et personne ne veut leur vendre le moindre morceau de pain ou de viande. Elles poursuivent leur route. Le balancement des chameaux et le ventre vide les engourdissent. Tin Inan demande à Takamat de jouer de la flûte pour les maintenir éveillés. quand elles n'ont plus rien à manger, elles s'arrêtent pour chercher quelques graines, quelques tubercules ici ou là. Elles arrivent à Arak, mais là encore, on les chasse à coups de pierre. Elles continuent leur chemin, droit vers le sud. En route, elles en sont réduites à manger des lézards. Cela fait plusieurs mois qu'elles ont quitté le Tafilalet. Et maintenant, il n'y a plus rien à manger. À bout de force, elles s'arrêtent. Elles n'iront guère plus loin. Takamat se met à pleurer doucement. Elles ne trouveront pas leur terre. Les hommes auront toujours la force pour eux. Le désespoir les gagne. Quand, soudain, un vent très fort se lève. Alors, Takamat sort sa flûte et se met à jouer ces airs qui leur donnaient tant de joie. C'est alors qu'elle voit, venant de la vallée, un gros nuage noir, compact comme une énorme boule, mais qui crisse un nuage de sauterelles. Elle vole droit sur Tininan et une nuée d'insectes s'abat tout autour des deux femmes. Tininan et Takamat se dépêchent de les ramasser, de les mettre dans un grand sac. Leur repas est tombé du ciel. Elles reprennent leur route, revigorées par cette manne inattendue. Arrivées au pied de la Takor, de nouveau, la famine les menace. Les chamelles épuisées, affamées, meurent l'une après l'autre. Désespérée, Takamat sort sa flûte et joue cet air si doux que lui chantait sa mère. Son regard erre sur les pierres qui l'entourent. Elle aperçoit une fourmi, puis deux, puis trois. Elle les suit des yeux. Il y a là tout près une fourmilière. Takamat prend un petit bâton et commence à en élargir l'entrée. À l'intérieur, s'empilent plusieurs kilos de graines de mil. Elles peuvent de nouveau manger. Elles reprennent leur route. Elles peuvent atteindre ainsi le village d'Abalessa, leur dernière chance. Et là, elles sont reçues comme des parentes revenues d'un long voyage. Les hommes eux-mêmes les accueillent et s'engagent à les protéger. Alors, Tininan décide de s'installer définitivement au milieu de ce peuple qui donne aux femmes la place qui leur est due. Grâce à ses qualités de cœur et d'esprit, Tininan est devenue la reine des Touaregs. Elle est considérée encore aujourd'hui comme l'ancêtre maternel de toutes les tribus nobles.
يا سرين وفم ترقى يا 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 Shil Armentel. Ya 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 tu. Ya 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 tu. Shil Armentel. Qatqadu qatqadu lil biwaya. بعد لفي هم سوى الحد يعرف له والزوى ليت لاوي جي مرحل قاطعين اعراض ودميان ليت لاوي جي مرحل يا مرحل يا مرحل يا مرحل قاطعين اعراض ودميان ولا
Nous allons quitter la Cour des comptes sur cette légende. Pour notre émission, qui sera diffusée en février, nous irons explorer le fonctionnement du cerveau, puisqu'on a longtemps considéré que les femmes avaient une plus petite cervelle que les hommes, et qu'en conséquence, il était normal de les traiter en attardé mental. Quelques surprises nous attendent. L'émission présente était illustrée musicalement par La Mordue dans Différence et Je suis une femme, Aïcha Minchigali, chanteuse mauritanienne dans Biad Kar, Ariane Moffat dans Je veux tout et Aya Omak dans Homme, femme. Et avant de nous quitter, je vous offre une prière des Indiens Pueblo. Que les étoiles emportent ta tristesse, que les fleurs remplissent ton cœur de beauté, que l'espérance essuie tes larmes pour toujours, et par-dessus tout, que le silence te fortifie. Bonsoir.